RFI, grand reportage.
Ces organisations criminelles prospèrent car elles ont un appareil policier qui les soutient et un appareil politique qui les utilise pour s'enrichir.
Le magazine de la rédaction vous emmène aujourd'hui à Rosario, parfois surnommée la Chicago argentine. Une comparaison qui remonte aux années 1930, quand l'installation de puissantes mafias siciliennes dans ce grand port agro-industriel en avait fait un temps la capitale du jeu et de la prostitution. Alors que Rosario présente actuellement un taux d'homicide trois fois supérieur à la moyenne nationale, ce vieux surnom refait surface. Rosario, la Chicago argentine, c'est un grand reportage de Théo Conscience.
Jeudi 26 octobre, alors que la nuit tombe sur Rosario, plusieurs milliers de personnes sont rassemblées à l'angle des avenues Juan de Rusto et Alverdi, dans le nord de la ville. De nombreuses pancartes dépassent de la foule compacte. Dessus, on peut voir la photo d'un jeune homme et la phrase « Justicia por Joaquín », « Justice pour Joaquín ». Deux jours plus tôt, Joaquín Pérez, un architecte d'une trentaine d'années, a été abattu par deux hommes en moto à quelques rues d'ici. Le 187e homicide depuis le début de l'année à Rosario.
Ils ont tué un jeune homme de 34 ans, un de mes voisins, pour lui voler sa voiture. Ils lui ont tiré dessus deux fois. Il avait une famille, une petite fille de 2 ans. Il venait de se marier.
Un maillot de Rosario Central sur le dos et son fils Nacho, 4 ans, sur les épaules, Hugo Gachina est encore sous le choc.
Ça fait peur parce que tu pars travailler le matin sans savoir si tu rentreras chez toi le soir. Parce que les détonations des armes, c'est tous les jours pareil, toutes les nuits, tout le temps. Ils tuent et ils continuent de tuer. Ils ont tué 9 personnes en moins de 6 jours. C'est incroyable comme situation.
Un peu en retrait, Alejandra observe la foule en silence, les larmes aux yeux. Elle est descendue de chez elle en robe de chambre, presque sans réfléchir.
C'est terrible, terrible ce qu'il se passe. Ils te tirent dessus pour te voler un téléphone portable, une paire de chaussures. Et sinon, s'ils ne te volent rien, ils te tirent dessus quand même. C'est un désastre. Un homme de 34 ans, architecte, qui laisse une petite fille orpheline. Le gouvernement, la police, personne ne fait rien. Personne ne nous protège.
Un sentiment d'abandon généralisé parmi les manifestants. Dans la foule, la tension monte, on crie à la corruption et des insultes contre la police et les dirigeants politiques fusent.
La gendarmerie, la police, no se ve en la calle.
Électrisé par les caméras de télévision présentes pour couvrir le rassemblement, un homme s'emporte et appelle à se faire justice soi-même.
Hay que matarlo, hay que hacer justicia por mano propia.
Autour de lui, certains approuvent et quelques applaudissements se font entendre. Une femme attrape un microphone, grimpe sur un muret et essaye de les raisonner.
Il faut que l'on reste unis. N'oublions pas que les élections arrivent en novembre. Il faut qu'ils s'occupent du problème de l'insécurité. Pour Joaquín et pour chacun d'entre nous, nous demandons à vivre en sécurité.
La question de l'insécurité est en effet devenue incontournable dans le débat politique local. Une véritable épine dans le pied des autorités de la ville et de la province qui se montrent incapables d'enrayer cette violence depuis près d'une décennie. Exaspérés par cette insécurité, les membres d'une quarantaine de comités de quartier se sont organisés à partir de février 2020 pour dénoncer la situation. Quelques jours après la manifestation, nous rencontrons leurs représentants dans un vieux supermarché reconverti en centre culturel. Ils se réunissent ce soir-là pour rédiger un ensemble de propositions qu'ils veulent présenter au maire de la ville.
À part d'augmenter le délit, augmentons la violence du délit.
La peur de sortir de chez soi le soir, l'inquiétude constante pour les enfants, les coups de feu qui retentissent la nuit, tous décrivent une insécurité quotidienne, envahissante, qui s'immisce jusque chez eux. Carmen Arregui, du quartier Assinard, dans le sud de la ville, raconte qu'elle a dû déplacer la table de sa salle à manger pour l'éloigner de la fenêtre qui donne sur la rue.
On ne sait jamais avec les fusillades, parce que le jour où ils ont tué ce garçon en face de chez moi, mon mari était dans le patio et ne savait pas d'où venaient les tirs, donc il a dû se jeter au sol. C'est terrible.
Depuis quelques années, ces fusillades gagnent des quartiers moins excentrés, comme celui où habite Melissa Herrero, l'une des principales figures de ce collectif.
Dans un commerce de mon quartier, il y a eu une tentative d'extorsion. Ils sont venus voir la propriétaire et lui ont dit qu'ils allaient tirer sur sa boutique si elle ne leur donnait pas tant de dollars. La propriétaire a refusé de donner les dollars et ils ont criblé la boutique de balles un vendredi en pleine journée à une dizaine de mètres d'une école. Et ça, ça témoigne de l'avancée des mafias et des extorsions.
À côté de Melissa, Viviana Buontiempo hoche la tête d'un air grave. Ces extorsions sont monnaie courante dans les quartiers périphériques, explique-t-elle.
Ce que raconte Melissa et qui a commencé à avoir lieu dans le centre-ville, c'est le quotidien des habitants dans les autres quartiers. Et pas seulement des commerces, mais aussi des maisons de particuliers.
Chaque jour, le parquet de Rosario enregistre entre 10 et 12 nouvelles balaceras, ces fusillades comme méthode d'extorsion. Une unité spécialisée a même été créée en 2020 pour enquêter exclusivement sur ces crimes. Ils sont le fait de bandes criminelles qui s'attaquent au commerce pour blanchir l'argent de la drogue et au domicile pour en faire des planques ou des points de vente, des bunkers. Un véritable fléau dans les quartiers les plus pauvres, là où la police fait défaut, s'énerve Victor de Batista derrière son masque.
Où est-elle, la sécurité assurée par les forces de police? Nulle part. Ils font des contrôles sur les avenues principales. Si tu veux vraiment avoir un plan sérieux, il faut aller occuper le terrain dans les quartiers où se génère cette violence, principalement à cause du trafic de drogue et des rivalités entre bandes.
Pour comprendre comment travaille la police, nous rencontrons l'inspecteur Sébastien Luna. La carrure imposante, le cheveu coupé ras, il est en charge de l'enquête sur le meurtre de Joaquin Pérez. Les yeux cernés, une barbe de quelques jours qui lui bouffe les joues, il explique que les assassinats en centre-ville pour vol de voiture comme celui de Joaquin Pérez sont assez rares. En revanche, ce cas est selon lui symptomatique de l'amateurisme de nombreux criminels.
Les gens qui se font payer pour aller tirer sur quelqu'un ne sont pas aptes pour le faire d'une certaine manière. Donc ils le font sans préparation, ils y vont et ils tirent. C'est pour cela qu'il y a des innocents qui meurent. Ces gens tirent sur une maison, tuent la mère, la fille, la sœur, mais pas la personne qu'ils visaient.
Ces sicarios de fortune sont le plus souvent des jeunes, parfois des adolescents. À Rosario, comme dans le reste du pays, un enfant sur deux vit actuellement sous le seuil de pauvreté. Faute de perspective, ce sont souvent eux qui vont vers les narcotrafiquants pour proposer leurs services. Dans certains quartiers, on tue pour 30 000 pesos, à peine plus de 100 euros, parfois deux fois moins.
C'est impossible de concurrencer le crime organisé d'un point de vue économique. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme opportunité à un gamin aujourd'hui? Ces derniers temps, les jeunes ont naturalisé la violence, c'est ça le problème. Ils n'accordent pas de valeur à la vie humaine. Nous avons arrêté par le passé des gens qui avaient commis 5 ou 6 homicides. C'est incroyable de voir qu'ils n'en souffrent pas du tout.
Une absence de compassion due selon lui à l'environnement dans lequel grandissent ces délinquants. Un monde impitoyable où la violence est glorifiée et où les jeunes n'aspirent qu'à porter une arme et pouvoir s'offrir une belle moto. Situé dans le sud-est de la ville, le quartier de La Tablada donne sur le port de Rosario, porte d'entrée de la marijuana paraguayenne et de la cocaïne bolivienne. Dans cette zone ravagée par la pauvreté et les violences entre bandes rivales, les narcotrafiquants se disputent le contrôle du territoire en envoyant en première ligne leurs soldaditos, ces adolescents armés qui tiennent les points de vente et s'improvisent parfois tueurs à gages.
Là, au coin de la rue, à côté du panneau jaune, eh bien, les trois enfants de la personne qui vit là sont sicarios. Les trois enfants.
Vilma Ludueña vit à La Tablada depuis toujours. Le regard à la fois triste et doux, cette institutrice d'une cinquantaine d'années est connue et respectée de tous ici. Sur la porte de l'école élémentaire où elle nous reçoit, on peut lire l'Arche des enfants écrit en grandes lettres colorées. Malgré cette référence biblique, elle avoue avoir de plus en plus de mal à sauver les enfants du destin tragique qui les attend dans la rue.
Souvent les jeunes m'expliquent que la vie a été si dure avec eux que plus rien ne leur importe. Ils me disent « mes parents ne m'avaient pas prévu, l'école ne veut pas de moi, le club de foot non plus parce que je ne peux pas payer l'adhésion, le quartier ne veut pas de moi car ils disent que je suis un cas social. Donc si personne ne veut de moi, moi je ne veux pas de vous et je vais vous tuer. » Voilà ce qu'il se passe dans la tête des jeunes de La Tablada.
Pendant qu'elle parle, une forme de résignation se dessine sur le visage de Vilma Ludueña. Année après année, elle voit impuissante ses anciens élèves se faire aspirer par la rue faute de perspective.
Il
faut dire aussi que dans ce quartier, il y a peu de présence policière, peu d'activités d'inclusion socio-éducative. Les enseignants ne peuvent pas aller chercher ces enfants car ils ne peuvent pas sortir des écoles à cause de l'insécurité de la zone. Et voilà, si les écoles, les clubs et les bibliothèques se ferment, la seule chose qui s'ouvre, c'est la rue.
Livrés à eux-mêmes et à l'influence de ceux qui contrôlent la rue, ces enfants commencent souvent à se droguer très jeunes. La première étape d'un engrenage malheureusement banal à la tablada, explique l'institutrice.
Ces gamins qui ont déjà le cerveau abîmé, comme on dit ici, se font embrigader comme soldadito, qui sont les gardiens de ces bunkers, de ces points de vente. Et quand ils commencent à être un peu plus aguerris aux activités criminelles, là, ils se convertissent en sicarios. Et deux ou trois ans après, on les retrouve au cimetière. En el cementerio de Provincia Unida.
Ici, c'est le quartier La Tablada. Et là, ce que vous voyez, c'est le club central Cordoba, un club historique du quartier.
Pull à capuche, casquette vissée sur la tête, Nicolas Martinez n'a pas l'allure d'un policier. Cet habitant de toujours de La Tablada est néanmoins coordinateur de l'organisme d'enquête rattaché au parquet de Rosario.
On va commencer par les lieux où on ne pourra pas aller quand le soleil sera couché.
À bord d'une voiture banalisée, il nous emmène dans les zones les plus sensibles du quartier auxquelles nous n'aurions pas pu accéder sans lui, de jour comme de nuit.
Il y a des codes ici. Dans le quartier, si tu baisses les yeux devant quelqu'un, il se rend tout de suite compte que tu n'es pas d'ici. Et il faut savoir combien de temps tu peux soutenir un regard. Parce qu'aujourd'hui, pour ce genre de discussion de « pourquoi tu me regardes comme ça ?», un gamin de 13, 14 ans peut te tuer. Aujourd'hui, plus personne ne se bat à main nue.
Un peu partout dans le quartier, des visages juvéniles s'étalent sur de grandes fresques murales. Des hommages posthumes, explique Nicolas, généralement accompagnés d'une référence religieuse et des couleurs de l'un des deux grands clubs de la ville, Rosario Central et Newell's Old Boys. À l'entrée d'une impasse, un petit groupe de jeunes regarde passer notre voiture d'un œil suspicieux. Ce sont des soldaditos, des petits soldats, ces adolescents qui sécurisent les points de vente.
Il y a trois bunkers dans cette rue et les trois appartiennent à des personnes différentes. Regarde, ce sont des enfants qui doivent avoir 12 ou 13 ans et ils sont sûrement armés. À cet âge-là, quelle capacité de discernement ils ont pour porter une arme? Ce sont des zones dangereuses. On a saisi un fusil automatique dans une de ces maisons alors qu'il y a des enfants qui jouent ici.
C'est justement cette atomisation du trafic de drogue et les conflits entre bandes rivales qui rendent la zone si violente. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a quelques années encore, les Monos, une puissante organisation criminelle, contrôlaient le marché et faisaient régner une paix relative entre les trafiquants. Un accord tacite qui vole en éclats en mai 2013 avec l'assassinat de Claudio Pajaro Cantero, le leader des Monos.
En tant que policier avec le recul, j'admire le pouvoir de conciliation ou de contrôle qu'avait le Pajaro. Sa mort a été le point d'inflexion. S'il était en vie aujourd'hui, on n'en serait pas là où on en est.
Si le Pajaro aujourd'hui était vivo, tout ça ne passait pas.
Avec la mort de Claudio Cantero, les Monos perdent leur cerveau. C'est son frère, Ariel Guiche Cantero, connu pour son tempérament explosif, qui reprend les rênes et lance une vendetta sanglante.
Après cela, beaucoup de codes et de limites qui existaient au sein du monde criminel ont été transgressés. Le meurtre d'une femme ou d'un enfant, par exemple. Avant, on ne touchait pas à la famille. Aujourd'hui, c'est habituel d'entendre que la mère, la sœur ou la fille de quelqu'un a été attaquée.
Avec Ariel Guiche Cantero aux commandes, les juges et les représentants du pouvoir judiciaire deviennent également des cibles. Fin août, le leader des Monos a été condamné à 22 ans de prison pour avoir commandité depuis sa cellule une demi-douzaine de fusillades sur des domiciles de magistrats en 2018. Des crimes qu'il revendique avec provocation à l'ouverture de son procès, en déclarant que sa profession est d'engager des sicarios pour tirer sur des juges.
911, emergencia.
Parmi les pièces à conviction présentées pendant le procès, cet enregistrement d'un appel passé au standard de police secours en 2018. On y entend un homme menacer d'attraper les juges, de les séquestrer et de les tuer si les membres des Monos incarcérés ne sont pas libérés. Nous nous rendons ensuite au tribunal de Rosario. Les rues autour de l'esplanade où se trouve le bâtiment sont coupées à la circulation par des cars de policiers et des grilles anti-émeutes. Les murs du tribunal portent encore les stigmates d'une fusillade perpétrée quelques semaines auparavant. Nous avons rendez-vous avec Mathias Ederi, l'un des procureurs de l'unité du parquet spécialisée dans la lutte contre le crime organisé.
Ici, à Rosario, nous avons une particularité très importante, c'est que tous les chefs des organisations criminelles sont en prison.
Depuis qu'il s'est rendu à la police en 2013, Ariel Guichet-Cantero cumule 96 ans de prison pour homicide, trafic de drogue, extorsion et enlèvement, entre autres condamnations. Une incarcération à vie qui n'a pas empêché son organisation de prospérer.
Ils se sont rendus compte que d'autres activités liées à la violence étaient plus rentables. Le cas le plus typique de Rosario, ce sont les extorsions. C'est comme la vente de protection de la vieille mafia sicilienne. Je te protège de moi-même si tu me payes. Alors pourquoi font-ils ça? Parce que ça leur coûte moins cher. Il suffit de deux gamins avec une arme et une moto qui tirent sur une maison et il n'y a plus besoin de maintenir la structure nécessaire au trafic de drogue avec des vendeurs, des fournisseurs, des soldaditos, des points de vente, des pots de vin à la police.
Dans leur volonté de diversification, les narcotrafiquants se sont aussi intéressés aux jeux clandestins. En 2020, une vaste enquête a mis à jour un réseau impliquant les monos mais également des magistrats et des élus de la province. D'où la nécessité, selon Mathias Ederi, de remonter la piste de l'argent et de combattre ces organisations criminelles en s'attaquant à leur portefeuille.
On ne peut pas comprendre la criminalité organisée sans parler de ceux qui blanchissent l'argent. Ces 10 dernières années à Rosario, de grands bâtiments et des tours ont été construits dans beaucoup d'endroits, souvent avec l'argent du trafic de drogue. Et cela s'explique par le dernier des facteurs, le lien avec les institutions. Ces organisations prospèrent car elles ont un appareil policier qui les soutient et un appareil politique qui les utilise pour s'enrichir.
De fait, certains des élus mouillés dans l'affaire du jeu clandestin ont été les fers de lance du processus qui a débouché sur la destitution du directeur de la police judiciaire de Santa Fe. Marcelo Sain, spécialiste reconnu de la lutte contre le crime organisé, a été écarté début novembre pour prosélytisme politique sur la base d'une loi votée quelques mois auparavant et baptisée « loi anti-Sain » par ses détracteurs. Voilà ce qu'en disait Marcelo Sain lui-même lors de son audition devant le Parlement provincial.
Quel est le problème avec Marcelo Sain? C'est que je suis directeur de la police judiciaire et que je participe à des enquêtes qui mettent en danger des structures criminelles qui jouissent d'une forte protection institutionnelle, dont certains des élus ici présents. Moi, je revendique la lutte contre la mafia. Et il y a certains des membres de cette chambre qui, à défaut d'être des mafieux, y ressemblent beaucoup.
Selon Marcelo Sain, les prochaines cibles de ce qu'il qualifie de persécution politique seront les procureurs qui ont travaillé avec lui, dont Mathias Ederi. Ce dernier a pour sa part la ferme intention de continuer le travail d'enquête qu'il a engagé.
Ce que nous faisons ici, ce n'est pas seulement enquêter sur ces organisations criminelles, mais aussi essayer de remonter le plus haut possible. On est remonté jusqu'à des policiers, des hommes politiques, pas seulement parce qu'on veut les faire tomber, mais parce que sinon, c'est impossible d'expliquer ce qu'il se passe. Et nous voulons que notre enquête serve pour construire un récit de ce qui s'est passé dans cette ville.
Depuis bientôt 10 ans, les chroniques de Rosario s'écrivent dans le sang de jeunes marginalisés, pièces interchangeables au service de groupes mafieux qui prospèrent grâce à des élites vénales et des policiers corrompus. Depuis leur prison, les narcotrafiquants terrorisent, extorsionnent et s'enrichissent sur le dos d'une population qui se sent de plus en plus abandonnée. Si le crime organisé d'aujourd'hui n'est pas le même que celui qui valut à la ville le surnom de Chicago Argentine dans les années 1930, il en reprend les codes et agit avec la même violence.
La technique del hip hop, Mr. Rap, MF, la profecía, verídico, le venimos a contar lo peligroso que está el barrio.
Rosario, la Chicago Argentine, un grand reportage de Théo Conscience, réalisation Pauline Leduc.
El barrio está peligroso,
eso se vive cada día.
El barrio está peligroso,
la droga arrasa como el cielo.
El barrio está peligroso
y no encuentra salida porque cada vez más gente se muere cada día.
El barrio está peligroso,
eso se vive cada día.
El barrio está peligroso,
la droga arrasa como el cielo.
El barrio está peligroso
y no encuentra salida porque cada vez más gente se muere cada día.